Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes aujourd'hui encore en compagnie de Marcel Proust, à qui nous consacrons cette deuxième émission. Après avoir raconté hier les coulisses et les conséquences de son prix Goncourt en 1919, dont on célèbre actuellement le centenaire, nous partons cette fois sur les terres de son enfance, en Eure-et-Loire, dans la commune de Hillier-Combray, près de Chartres, à une heure au sud de Paris. Là se sont réunis pendant plus d'une semaine les plus grands spécialistes de l'écrivain dans le cadre du printemps proustien. L'occasion de rencontrer à la fois son traducteur japonais, son biographe américain, mais aussi deux éminentes et passionnantes auteurs. Et pour finir, nous reviendrons à Paris visiter l'hôtel Swann, ainsi nommé en hommage à l'un des personnages principaux de l'œuvre, à la recherche du temps perdu, en compagnie du directeur de cet établissement littéraire. Mais pour commencer, visite guidée de la maison familiale qui a inspiré à Marcel Proust l'un des lieux de son œuvre littéraire, avec Virginie Richet-Pierre, directrice générale des services de la mairie d'Hillier-Combray.
Nous pénétrons dans l'univers de Marcel Proust, la maison de la tante Léonie.
Qui se trouve à Hillier-Combray.
Oui.
Mais il faut peut-être dire déjà que Hillier-Combray s'appelait Hillier du temps de Marcel Proust.
Tout à fait. Donc il lui a donné le nom de Combray, donc à la recherche du temps perdu. Et en 1971, la ville est devenue Hillier-Combray en hommage à l'écrivain.
C'est exceptionnel, historiquement et géographiquement, qu'une ville change de nom grâce à la littérature.
C'est la seule ville littéraire qui a un nom littéraire en France.
Et c'est donc dans cette maison que venait Marcel Proust petit.
En fait, ça a marqué toute son œuvre. Je crois que Combray l'a marqué avec ses souvenirs, les images, les odeurs. Et toutes ses premières impressions d'enfance, c'est ce qui a tout marqué son œuvre.
Alors, on va s'avancer.
Oui.
Donc là, nous sommes...
À l'entrée, en fait, de la maison. Une entrée, parce qu'il y a une entrée rue, et ça, c'est l'entrée jardin. Et à la recherche du temps perdu, il parle toujours de l'entrée jardin et de l'entrée sur la rue. Et selon qu'il aille à Swann ou à Guermantes, il prend l'une ou l'autre entrée.
Du côté de chez Swann, par exemple, le titre vient de là.
Oui, du côté de chez Swann, c'est plutôt du côté des bourgeois. Et du côté de Guermantes, c'est évidemment du côté des aristocrates. Hein. Donc, c'est les deux mondes que Proust a connus à Paris, la bourgeoisie et les aristocrates.
Je vous suis, allez-y.
D'accord.
Alors là, on se trouve dans une pièce très importante.
Oui, c'est la cuisine, pièce très importante pour Marcel Proust, où Françoise cuisinait en particulier les asperges.
Qui est Françoise ?
Françoise, c'était la bonne, en fait, de la maison et de la famille Proust. Et la cuisinière est d'époque. C'est la cuisinière de la maison de tante Léonie.
Donc là où éventuellement a été chauffé le lait pour le chocolat chaud.
Tout à fait, et l'eau pour le thé et les madeleines.
Et donc là, on arrive dans la chambre de
Marcel Proust. Donc vous remarquerez sur la table de chevet son livre préféré que lui lisait sa maman, François de Champy de Georges Sand. Il adorait Georges Sand. Il pensait que c'était un homme. Il n'avait pas compris au départ que c'était une auteure. Voilà. Et nous découvrons la lanterne magique qui l'a fait rêver, ancêtre du cinéma, qui le faisait rêver et qui lui faisait imaginer un monde autant des chevaliers. Et c'est la lanterne magique qui lui a donné l'envie, en fait, de rentrer dans l'aristocratie. C'est toute cette histoire d'aristocrate, de seigneur, etc., qui lui a donné envie de rentrer dans l'aristocratie parisienne.
Et donc là, on est devant le fameux lit oui. de Marcel Proust quand il était enfant. Alors, on voit bien, en effet, que c'est un petit lit à une place qui n'est pas très long. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est ici que commence la recherche du temps perdu avec cette phrase emblématique « Longtemps, je me suis couché de bonheur ».
Oui, c'est là où il pleurait parce que sa mère ne venait pas le border et lui dire au revoir. Ça a été tout son traumatisme de son enfance car il était très très attaché à sa mère. Et quand il montait le petit escalier qu'on a monté pour venir à la chambre, il n'avait qu'une appréhension, c'est que sa mère ne vienne pas lui lire François de Champy et le border.
Donc c'est un lieu historique.
Tout à fait.
Donc tout ce que nous voyons, Marcel Proust l'a vu.
Oui. Tout à fait. Bon, il y a quelques reconstitutions, parce qu'il y a des meubles qui n'ont pas été retrouvés parce que tout est parti. Tout a été légué à Céleste, qui était sa bonne, sa gouvernante. Donc, il y a des meubles qui n'étaient pas dans la maison, mais c'est une vraie reconstitution par rapport à ce qui est dit dans le roman, et ce qui existait à l'époque.
Et donc là, il y a beaucoup de monde qui est en train de visiter la maison. Ça veut dire qu'il y a une fréquentation importante ?
Ah oui, alors la maison, la fréquentation normale, annuelle, c'est de 3000 personnes par an. Et là, on atteint 500 visiteurs par jour.
Et qui sont les gens qui viennent ici ?
Alors, il y a des amoureux, évidemment, de Proust et de la littérature. Et puis, il y a des gens qui découvrent, en fait, Proust, et qui ne le connaissaient pas, et qui découvrent Le Petit Écrin et Élie Combray, qu'ils ne connaissaient pas. Voilà.
Des visiteurs qui viennent de l'étranger aussi ?
Oui. Nous avons des Japonais, des Américains, des Coréens, un peu de toutes les nationalités.
Et eux, ils ne viennent pas par hasard, pour le coup ?
Non, c'est des amoureux de Proust et de la littérature.
Autre amoureuse de la littérature, l'essayiste et biographe Evelyne Bloch-Dano, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Proust, qu'elle évoque aussi dans son beau livre « Mes maisons d'écrivain » chez Stock, où elle détaille les nombreuses adresses de l'écrivain qui s'est beaucoup amusé dans son œuvre à mélanger les noms et les lieux, comme l'explique Evelyne Bloch-Dano.
Évidemment, la maison de Tante Léonie, et je mets des guillemets car cela n'a jamais été, bien sûr, la maison de Proust. Ça n'a pas non plus été la maison de Tante Léonie, puisque Tante Léonie n'existe pas. Donc, c'était la maison des Amiot, donc la sœur de son père et son beau-frère. Et dans cette maison, Marcel Proust est venu jusqu'à l'âge de 9 ans, en vacances, non pas toujours l'été, contrairement à ce que l'on dit, mais assez souvent plutôt aux vacances de Pâques.
Est-ce que c'est important pour vous d'être ici ?
C'est la première maison d'écrivain que j'ai visitée, en fait, lorsque j'étais étudiante. Et j'avais lu La Recherche en vacances. Et j'ai tout de suite eu envie de venir à Hillier, qui ne s'appelait pas encore Hillier Combray. Et à l'époque, il fallait aller chercher la clé chez un voisin, chez Monsieur Larcher, qui est celui qui a restauré, meublé cette maison à l'image de la maison de La Recherche. Donc c'était toute une aventure. J'y suis venu quand même très souvent, donc c'est toujours un plaisir, c'est vrai, mais je dirais que pour moi c'est à la fois une maison réelle et une maison de l'imaginaire. Et au fond, comme souvent dans les maisons d'écrivains, nous y projetons les images et les représentations que nous avons et de l'écrivain et de son œuvre, vous voyez, et de ce qui évoque éventuellement la maison dans son œuvre. Donc pour moi, c'est plutôt ça, la maison d'Hillier, mais je pourrais être tout à fait honnête, ça n'est pas... au fond, Proust n'a pas besoin qu'on le représente dans un lieu précis, pour moi. Le lieu... La maison de Proust, c'est son œuvre, à mes yeux. Donc, je ne devrais pas peut-être dire cela ici, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens.
Et si, en effet, l'esprit proustien ne réside pas dans une seule demeure, il est certain qu'il a traversé les frontières et les océans, comme en témoigne le biographe américain de Marcel Proust, William Carter, qui confirme le succès de l'écrivain français outre-Atlantique.
Il est très connu aux États-Unis. C'est un romancier qui est populaire. J'appelle ça en anglais the Proust phenomenon, parce que quand la presse américaine veut citer l'écrivain par excellence, c'est toujours Proust qu'on nomme. Son nom est connu, son image est connue, et la scène de la Madeleine, tout le monde connaît l'histoire des Madeleines, même si on n'a pas lu Proust. Donc, dans la presse américaine, quand on veut citer, comme je l'ai dit, le romancier par excellence, c'est Proust qu'on nomme. Ce n'est pas Hemingway, ni Faulkner, ni James Joyce. Non, il est très, très connu aux États-Unis. Heureusement pour moi.
Est-ce que vous vous souvenez, William Carter, la première fois où vous avez lu Proust ? D'ailleurs, s'agissait-il d'une lecture en français ou en anglais ?
Non, je l'ai lu seulement en français. J'ai lu Proust en anglais pour la première fois dans les années 80, quand on m'a demandé à l'université de donner un cours en anglais sur la recherche.
Et vous avez éprouvé le même sentiment à la deuxième lecture, en anglais ou pas ?
Oui. Et je connaissais bien le texte. Oui, c'est très émouvant dans les deux langues.
Et qu'est-ce qui vous avait frappé dans votre première lecture ? Est-ce que vous aviez l'impression de découvrir un univers romanesque différent, une écriture ?
Oui, c'est le style. Pour moi, La recherche, les phrases de Proust sont comme de la musique. On dit que Proust est un auteur encyclopédique, n'est-ce pas? Parce que les lois psychologiques, les analyses, les perceptions, sa manière de créer des personnages. Et puis j'aime beaucoup l'époque, n'est-ce pas? J'aime beaucoup la fin du siècle, la belle époque. L'époque de l'histoire que je trouve peut-être la plus intéressante est l'ère de Proust. Donc il y avait tant de choses que ce serait difficile de les nommer. Et puis c'est comme tous les grands romans, comme tous les chefs-d'œuvre, il y a là-dedans une richesse inépuisable, n'est-ce pas? C'est comme Montaigne ou Shakespeare, oui.
Donc votre passion vous a conduit à devenir le biographe américain de Marcel Proust, parce que sans doute il était déjà connu, lu et apprécié, mais aussi peut-être pour présenter l'homme qui l'était moins.
Oui, je voulais écrire une biographie, surtout pour le public américain, mais j'ai attendu pour avoir toutes les lettres de Proust, publiées par Philip Colm. Il y a 5000 lettres, n'est-ce pas? Et donc, avant d'écrire ma biographie, je voulais avoir toutes les lettres et tous les documents possibles. Et dans les lettres, on apprend beaucoup de choses. Et puis, il y a les mémoires de Céleste Albarré et d'autres. Donc, je voulais profiter au maximum de tous les documents, tous les beaux livres sur Proust avant de terminer ma biographie.
Est-ce que vous avez l'impression qu'avec votre regard d'intellectuel américain, vous présentez une facette inédite de Marcel Proust?
Une bonne question. Oui, je pense que je parle surtout de l'homme et de l'œuvre et comment un homme comme Proust, qui croyait pendant presque toute sa vie que c'était un échec du temps perdu, il n'avait pas trouvé sa voie, son sujet, pas vraiment son style. Et donc je voulais expliquer comment un homme qui était homosexuel, qui était très malade, qui ne savait pas ce qu'il allait faire de sa vie, comment il a réussi.
Vous voulez dire qu'il y a un côté rêve américain dans l'expérience proustienne?
Oui, je pense que c'est la question essentielle au début de la recherche. C'est la partie, tout le début. Proust a dit dans une lettre que c'était l'ouverture. Il se pose des questions. Je ne sais pas si vous connaissez le passage, mais il est au lit, il est en train de rêver, de se réveiller. Il ne sait ni qui il est, où il est, ce qu'il est. Et donc il se pose la question, qui suis-je, n'est-ce pas, qu'est-ce que je vais faire de cette vie? Et je pense que c'est la question essentielle pour chacun, n'est-ce pas? C'est universel.
Universel également au Japon, avec son traducteur que je laisse se présenter.
Kazuyoshi Yoshikawa.
Et vous êtes le nouveau traducteur en japonais de l'œuvre de Marcel Proust.
C'est ça, oui.
Il y avait déjà eu deux versions et vous attaquez à une troisième version. Pourquoi?
Parce que bien sûr, les deux premières traductions sont bien sûr excellentes, mais la première traduction un peu trop fidèle au texte de Proust, dont la lecture est un peu difficile. Et puis la deuxième traduction coupe les longues phrases de Proust en segments plus courts, donc c'est beaucoup plus facile à lire, mais me semble-t-il un peu trahi l'esprit de Proust. Donc j'ai essayé de faire une nouvelle version, à la fois fidèle au texte de Proust bien sûr et facile à lire, en japonais, accessible, non pas à tous, mais au moins au public cultivé japonais.
S'il s'agit déjà d'une troisième version de la recherche au Japon, est-ce que ça veut dire que Marcel Proust est un auteur apprécié et connu au Japon?
Oui, bien sûr. Oui, c'est un grand nom de la littérature, comme Shakespeare, en Angleterre, Goethe, en Allemagne. Donc c'est un des grands noms de la littérature française et apprécié au moins dans le public cultivé.
Quand est-ce que vous avez commencé votre nouvelle traduction de « À la recherche du temps perdu » ?
J'ai commencé ce travail il y a à peu près 13 ou 14 ans. Donc le premier volume consacré uniquement à Combray. qui a été publié en 2010. Et depuis 2010, c'est vendu à peu près de 38 000 exemplaires. C'est une publication en format de poche Iwanami, en 14 volumes. Et je suis en train de terminer le 14e, le dernier, qui est consacré au bal de tête, la dernière scène de la recherche, et un index général qui va sortir en septembre prochain.
Donc environ 14 ans pour 14 volumes pour l'entièreté de la recherche du temps perdu.
Oui, à peu près ça.
Est-ce que vous diriez que traduire Proust en japonais, c'est plus difficile que traduire un autre auteur français ou pas?
Oui, je crois que c'est beaucoup plus difficile parce que les phrases sont longues et puis les allusions historiques très compliquées. Et puis, ce que dit Proust, c'est toujours quelque chose d'inattendu et assez difficile à comprendre jusqu'aux moindres nuances. Donc, quand on lit Proust, par exemple, l'analyse psychologique très poussée de Proust, les autres analyses psychologiques dans d'autres écrivains français me paraissent un peu anodins, même anodins.
Donc ça a été un défi.
Donc c'est très difficile de produire un texte en japonais qui ressemble quand même à celui de Proust, à cette phrase très compliquée de Proust. On me dit toujours, ça doit être difficile, ça prend beaucoup de temps, vous êtes courageux, ça doit être pénible de travailler tous les jours comme ça. Mais pour moi, c'était toujours une grande joie pour moi.
Avez-vous lu Proust? La recherche? Oui, entre Proustien, on dit la recherche.
Ah, pardon. Moi, j'ai jamais lu Proust. Je veux dire le lire en entier.
J'ai essayé plusieurs fois, mais j'y arrive pas.
Je m'ennuie. Je reste sur le palier.
C'est pas de la graine pour mon moineau.
Haro sur le baudet.
Honte à celui qui parle.
Aujourd'hui, c'est le rendez-vous des Proustiens.
Proustophiles.
Proustologues.
Proustolâtres.
Ils sont venus.
Ils sont tous là.
Proustophobes, passez votre chemin.
Marcel est dans la place.
Pourtant, il faut bien reconnaître que les lecteurs des 7 volumes de la recherche ne font pas légion chez le Vulgus Pecum.
Ce livre reste un des plus célèbres, mais rares sont ceux qui l'ont lu en entier. Bienvenue dans le petit cercle des aristocrates de la littérature.
Des fidèles de la phrasologie essoufflante.
Des encombrés du point-virgule.
Le Proust, ça se mérite.
Ouais.
C'est une ascension de longue haleine. Ce qui, pour un asthmatique, ne manque pas d'air.
Alors allons-y.
Les humoristes aussi s'amusent avec Marcel Proust, à juste titre d'ailleurs, car contrairement à l'idée reçue, l'écrivain avait également beaucoup d'humour. La preuve avec Laure Hillerin, qui a publié Proust pour rire, où elle recense tous les passages jubilatoires de l'œuvre.
C'est un humour qui ne juge pas. Voilà, on a beaucoup dit que Proust avait fait la satire d'une classe sociale, etc. Mais il aimait cette société. Il y avait des amis, ce qui ne l'empêchait pas de porter sur les gens un regard radioscopique, de voir toute leur petitesse. Mais ce qui est très particulier à lui, c'est qu'il ne se pose pas en position de supériorité ou de juge. D'ailleurs, il le dit lui-même, il dit « Je ne mésestime pas moins les gens d'avoir tel ou tel défaut qu'un médecin ne mépriserait ses malades parce qu'il ne voit pas clair ou parce qu'il boite. Il donne à voir, simplement. » Et ça, c'est très important. Et dans la recherche, il y a beaucoup d'autodérision aussi. Donc, il se moque de tout le monde, à commencer par lui. Il y a des portraits du narrateur où il se met dans des situations totalement ridicules. Et ça, je trouve que savoir rire de tout, et d'abord de soi-même, c'est une grande force dans la vie. Et c'est quelque chose que les gens ont beaucoup perdu aujourd'hui. Et l'humour, pour moi, l'humour, c'est quelque chose qui rapproche les gens, qui abolit les barrières, qui, quand on rit de quelque chose ensemble, ben, voilà, même si on ne se connaît pas, on est amis. C'est pour ça que vous mettez deux Proustiens, tous les Proustiens sont sensibles à l'humour de Proust, vous mettez deux Proustiens ensemble, même s'ils ne se sont jamais vus, immédiatement ils trouvent un terrain d'entente. C'est comme une espèce de confrérie,
Laure Hillerin, puisque vous avez entre les mains votre exemplaire de Proust pour rire, est-ce que vous pourriez nous lire un exemple, soit de cette autodérision que vous citez, soit de cet humour un peu ironique qu'il peut porter sur les personnages de cette société qu'il a tant décrit ?
Oui, bien sûr. Ben, je peux vous lire, si vous voulez, c'est un passage assez connu qui s'appelle « Le croissant » de Madame Verdurin, qui est magnifique. Alors, je le connais quasiment par cœur, mais je vais peut-être quand même le rouvrir à la bonne page si jamais j'avais eu un doute, histoire de ne pas bafouiller. Madame Verdurin, souffrant pour ses migraines de ne plus avoir de croissant à tremper dans son café au lait le matin, avait réussi à obtenir de Cottard une ordonnance afin qu'elle puisse en faire faire dans certains restaurants dont nous avons parlé. Cela avait été presque aussi difficile à obtenir que la nomination d'un général. Elle reprit son premier croissant le matin où les journaux narraient le naufrage du Lusitania. Tout en trempant le croissant dans le café au lait et donnant des pichenettes à son journal afin qu'il pût se tenir grand ouvert sans détourner son autre main des trempettes, elle disait « Quelle horreur ! Cela dépasse en horreur les plus affreuses tragédies !» Mais la mort de tous ces noyés ne devait lui paraître que réduite au milliardième, car tout en faisant, la bouche pleine, ses réflexions désolées, l'air qui surnageait sur sa figure, amené là probablement par la saveur du croissant si précieux contre la migraine, était plutôt celui d'une douce satisfaction.
Et puis pour parfaire ce pèlerinage proustien en France que nous allons terminer dans un instant à Paris, échantillonnage des autres sites où a vécu et qui ont inspiré Marcel Proust, à commencer par la Normandie. Evelyne Bloch-Dano.
Bien sûr, Cabourg et le Grand Hôtel, qui quand même est très important, puisqu'il y est allé à de multiples reprises, qu'il l'a utilisé dans l'œuvre sous le nom de Balbec, mais Balbec, comme Combray, n'est pas seulement Cabourg. Il y a des traits aussi de Trouville, par exemple, où il s'est rendu avec sa mère. Et puis aussi, il y a le boulevard Haussmann, l'appartement du 102 boulevard Haussmann dans lequel il a écrit et qui se trouve aussi, donc j'ai pu visiter lorsqu'il était encore ouvert au public, dans mon livre. Il y a le 45 rue de Courcelles où il a habité avec ses parents quand ils ont déménagé du boulevard Malesherbes, donc ils sont restés finalement dans le même quartier autour du parc Monceau, hein, dans ce secteur. Donc voilà, vous voyez on pourrait dire le panorama et de ces différentes habitations, en tout cas celles dont j'ai pu parler.
Et pour finir ce voyage, direction le 8e arrondissement à Paris, où en 2013 s'est ouvert le Swan, un hôtel littéraire entièrement dédié à l'auteur de La Recherche du Temps Perdu, un établissement fondé par Jacques Le Tertre, passionné et collectionneur de la première heure, et qui n'a pas choisi ce quartier par hasard.
Ben, c'était le quartier où Proust a vécu pendant toute son enfance. On a été dans un univers que Proust connaissait parfaitement, et il a aimé ce quartier. C'est le quartier de la Plaine Monceau, donc il nous paraissait légitime de faire un hôtel qui lui soit consacré. Et comme Proust est mon écrivain préféré, c'est par lui que j'ai commencé.
Alors comment se compose cet hôtel ?
Il est composé de 81 chambres, 81 personnages différents de la recherche. On en avait retenu 150, on en a éliminé 70. Et l'idée, c'est que chaque chambre corresponde à un personnage sur lequel vous allez avoir envie d'en savoir plus. Là, on est dans l'étage qui est consacré à Combray. L'étage supérieur est consacré à Balbec. Et encore plus haut, c'est le Faubourg Saint-Germain. Vous pouvez avoir la chambre d'Oriane de Guermantes, la chambre de Palamède de Charlus. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu la recherche pour venir ici. Mais c'est l'idée que vous aurez envie d'en savoir plus. Alors vous pouvez le découvrir en bande dessinée, vous pouvez le découvrir dans la délicieuse préface que Proust avait faite pour justement Ruskin, qui est sur la lecture, qui fait une trentaine de pages et qui est un merveilleux moyen de découvrir l'œuvre de Proust. Mais l'idée, c'est que vous allez être dans un univers de culture et que ça va vous donner envie d'en savoir plus.
Et ici, nous sommes chambre 111, qui correspond à...
C'est la chambre de la mère du narrateur, parce que je vous rappelle qu'il y a une grande différence entre Marcel Proust et le narrateur. Proust n'écrit pas un livre de mémoire, il écrit un livre en tant que tel. Et la mère du narrateur, qui d'ailleurs est souvent mélangée avec la grand-mère du narrateur, est un personnage qui ressemble beaucoup à la mère de Proust, mais qui n'est pas que la mère de Proust.
Donc ici, dans la chambre du narrateur, Que voyons-nous? Comment avez-vous voulu que le décor s'imprègne de l'œuvre proustienne?
Alors, on a demandé à un photographe russe de nous donner son idée du temps retrouvé, c'est-à-dire le moment où les personnages disparaissent dans la mémoire, où ils ne sont plus que des fantômes de souvenirs. Et c'est ce qu'il nous a représenté dans la photographie que vous avez là.
Pareil, au-dessus du lit, donc, que je vous laisse décrire.
Alors, elle représente deux ombres qui sont ce qui reste du souvenir. En fait, la recherche est construite comme une cathédrale. Tout ce qui est dans le premier tome se retrouvera dans le dernier. N'était le fait que le temps a joué et que les souvenirs ont fini par effacer les éléments les plus importants. Donc là, on le voit bien à travers la conception qu'a eu ce photographe russe. Après, c'est son idée à lui des choses. Sur le mur que vous avez là-bas, il y a la reprise du portrait de Jeanne Proust, née Jeanne Veil, qui est la mère de Proust, qui est une femme brillante, intellectuelle. C'est elle qui traduira, c'est pas Proust qui va traduire en anglais, parce que Proust parlait pas anglais, mais elle le parlait bien. C'est elle qui traduira Ruskin, et elle aura une grande influence sur Proust, mais sa mort prématurée en 1905 va, en quelque sorte, pousser Proust à passer à l'œuvre écrite totale, que sera La Recherche, dont le premier tome paraîtra en 1913.
Et ici, un encadré avec un texte qui rappelle qui est la mère du narrateur dans l'œuvre.
Oui, là, c'est notre aquarelliste qui s'appelle Jean Aubertin, qui a travaillé dans tous nos hôtels et qui, à chaque fois, a représenté sa vision de la mère du narrateur, là où la vision de tel ou tel personnage. On vous donne la phrase de Proust la plus emblématique sur sa mère, la traduction en français, en anglais, de notre conception du personnage. Donc l'idée est que, très brièvement, vous ayez envie d'en savoir plus. Sur la table que vous avez ici, vous avez un lien livret qui vous raconte cette histoire-là et qui vous raconte toutes les chambres. Et on a l'idée ou l'espoir que les gens voudront voir d'autres chambres que celles où ils dorment. Et il y a surtout, en bas, 500 livres qui sont à la disposition des visiteurs qui peuvent les monter dans leur chambre, qui sont dans toutes les langues. Proust a été énormément traduit. Vous avez Proust en chinois, en allemand, en anglais, et vous l'avez même en maltais, qui vient d'arriver. La première traduction maltaise de Proust vient d'avoir lieu, et très gentiment, le traducteur a pensé qu'il était important que son livre soit au milieu de toutes les autres traductions de Proust que nous avons déjà.
Et donc, cela veut dire que la clientèle ici, par exemple, est une clientèle internationale?
C'est assez spectaculaire parce qu'avant, cet hôtel existait et l'hôtel était à 60% de clientèle française et 40% de clientèle étrangère. Et je dirais presque du jour au lendemain, les proportions se sont inversées. Et c'est vraiment très cosmopolite et on sent à quel point Proust est recherché dans le monde entier. Et pour beaucoup de gens, y compris les gens qui ne l'ont pas lu, il véhicule une image de culture française, d'une époque bénie des dieux qu'est la Belle Époque, et ce monde d'avant la guerre de 14, et dans lequel Paris était en quelque sorte la capitale du monde.
Ici se referme notre reportage sur les traces de Marcel Proust, à l'honneur tout au long de cette année qui célèbre les 100 ans de son prix Goncourt. Restent les livres de Proust et les nombreux ouvrages consacrés à sa vie et son œuvre, dont vous trouverez quelques références sur le site de RFI à la page de l'émission.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.